chez vous.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Jean-Simon Buis.
6h30, sous les nuages à Québec. Bon matin, on est jeudi. Et dans la circulation, Vest, ça ressemble à quoi à cette heure-ci?
Ça ressemble à pas grand-chose, dans le sens où il n'y a pas de ralentissement de nulle part. On va surveiller le pont de la Porte en direction nord, parce qu'hier, il y avait des bons ralentissements en raison de travaux d'asphaltage qui faisaient en sorte que la chaussée était compliquée à gérer. Il y avait des nivellations là, qui faisaient en sorte qu'on était obligé de ralentir. Si vous êtes passé sur le pont de la Porte en direction nord ce matin et vous avez constaté quelque chose, vous pouvez nous avertir sur l'étoile 93.3. Et sachez que ce soir, il y a des grands feux d'Auto-Québec. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de service de traversier entre 21h15 et 22h40.
La circulation présentée par Paquette Nissan à Lévis. Vous serez équipé pour l'été avec la liquidation des Sentra. Financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois ou 3 000 $ de rabais. Une Paquette et rien d'autre.
Un peu plus de 3 ans après le suicide d'une étudiante en médecine, l'Université Laval ne notera plus ses futurs médecins. La faculté de médecine a notamment pris cette décision dans le but de modérer l'esprit de compétition entre étudiants. Le Journal de Québec écrit que les traditionnelles notes chiffrées et lettrées ne seront plus divulguées aux étudiants sous forme de projet pilote. On va plutôt attribuer la mention succès ou la mention échec à un examen. Certaines universités québécoises appliquent déjà ce système de notation. L'élargissement de l'autoroute Henri IV coûtera finalement 200 millions de moins que prévu. Ce qu'a annoncé hier le gouvernement. La facture initialement évaluée à 450 millions a été réduite à 291 millions de dollars. Des mesures d'atténuation seront mises en place durant les travaux pour éviter d'importantes congestions et il devrait s'étirer jusqu'en 2023. Finalement, plus de 10 000 personnes provenant d'une centaine de pays ont postulé afin de venir travailler dans la région de Québec. Une mission de recrutement virtuel planétaire a été mise en place pour combler 500 postes affichés par 27 entreprises. Le Soleil indique que Québec International, qui est à l'origine de la mission recrutement, tiendra en septembre plus de 1 500 entrevues en 2 semaines. Les employeurs qui ne reçoivent presque plus de CV sont fébriles quant à cette démarche.
Au tennis, défaite pour Félix Auger-Aliassim en 3 manches de 3-6, 6-4 et 7-6 hier face à Daniil Medvedev, le Russe qui l'emporte donc au deuxième tour de la Coupe Rogers. Milos Raonic a perdu. Denis Shapovalov, lui, a gagné. Il est le seul Canadien toujours en vie et à Montréal et à Toronto parce qu'à Montréal, Françoise Abanda s'est incliné contre la troisième favorite, Sloane Stephens. Au baseball, défaite des Capitals 8-4 contre les Boulders à Rockland. Et au hockey, il y a une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale qui seront présents ce soir au Centre Vidéotron pour la 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron.
C'est gris et ce sont des averses dans certains secteurs ce matin. Ensuite, alternance soleil-nuage pour la journée avec un faible 40% de probabilité d'averse. Il y a un risque d'orage aussi pour cet après-midi. Ça fait 3 jours qu'on termine nos journées avec ça, alors on continue. Maximum à 26 degrés aujourd'hui avec l'humidex, on reste en 34. Et à partir de demain, c'est du soleil jusqu'à mardi prochain avec de grandes et hautes et chaudes températures jusqu'à 28 degrés. Actuellement, il fait 20 à Québec.
Préférez-vous des médecins pas notés ou des médecins en burn-out? Je pense que c'est la question à laquelle il faut, sur laquelle il faut se pencher ce matin, compte tenu de la nouvelle que tu viens de nous énoncer dans tes manchettes, Pascal, concernant la fin des notes pour les futurs médecins à l'Université Laval. D'abord, là, je vous mentionnais que c'est pas une nouveauté. Il y a d'autres universités qui le font déjà. Il y avait McGill qui le faisait. L'Université de Montréal va le faire cet automne.
Sherbrooke le faisait
également. Mm-hmm. Donc, les principales facultés de médecine le font déjà. Le but de ça, de ne plus noter, ça veut dire que bon, il n'y aura plus
de chiffres ou de lettres,
là, des A+, puis des
78%, 80%.
Mais dans les faits, il va rester, tu sais, un seuil de passage.
Oui.
Il va toujours rester le même. Je sais pas comment ils vont le faire, quel barème ils vont utiliser pour faire passer les médecins, là.
Tout ce qui va être écrit, c'est échec ou réussite.
Ou réussite. Et la raison de ça, c'est la détresse psychologique chez les médecins. Visiblement, on a un problème de culture, de compétition chez les étudiants en médecine, les résidents et éventuellement les médecins aussi, parce que quand tu regardes le portrait psychologique chez les médecins, il n'y a rien de très, très reluisant là-dedans. Et ce sont des gens qui prennent soin de votre santé et de ma santé et de ta santé et de la santé de tout le monde. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui ont des problèmes entre les deux oreilles pour nous soigner? Où on veut des gens qui ont peut-être un peu plus de zénitude puis qui sont plus capables de prendre ça en quelque sorte. Relax, on s'entend. Là, on veut pas dire qu'il faut prendre la vie à la légère, mais qui sont capables de mettre un peu un grain de sel dans leur esprit de compétition. J'ai tendance à penser que c'est peut-être une bonne idée de plus noter les médecins si on a réellement des problèmes. C'est des possibilités qui ont été évaluées. je suis pas le premier à croire au nivellement par le bas, puis je pense pas que c'est la solution en éducation. Mais ben, je suis pas sûr que c'est ça qu'on a ici. Là.
Mais les critères changeront pas.
Exactement. Les critères d'admission vont être les mêmes.
Si ça prend un B pour passer, ça va être marqué B dans les notes du prof.
Oui.
Mais pas sur le bulletin. Pas sur le bulletin de l'étudiant.
Moi, je vois un avantage du fait que tu vas pouvoir te concentrer pas sur la compétition entre élèves et qui a eu la plus haute note, mais bien sûr, qu'est-ce que j'apprends et j'ai réussi à l'apprendre ou non. Là où je vois le désavantage, c'est que par exemple, moi, à l'école, si j'avais 75%, je savais que j'avais pas acquis ma matière d'une façon très, très bonne. Je savais, par contre, 86 en montant, et là, j'avais acquis ma matière, puis j'étais capable de passer à un autre niveau ou encore de performer en continuant d'apprendre ce que j'avais déjà appris. Mais pour moi, 65, 70, 75, il fallait encore mettre du travail dans cette matière-là parce que je l'avais pas complètement comprise. Moi, en tant qu'étudiant en médecine, je voudrais continuer de savoir si ça, ce chapitre-là, je l'ai bien assimilé.
Sauf que, tu sais, ils vont quand même avoir les corrections, j'imagine, de leurs examens. Là.
Peut-être
ils vont
que tu pourras aller voir le prof.
Mais tu sais, succès-échec, mais tu peux l'avoir, ta copie. Là. Je peux pas croire pourquoi, dans ta copie, tu n'aurais pas justement les réponses que tu as manquées. Quand même que c'est un chiffre ou une lettre, c'est pas ça qui va changer. Le point, c'est vraiment l'esprit de compétition entre les élèves. Est-ce qu'il est pertinent? Dans la médecine, est-ce que c'est pertinent de développer un esprit de compétition? Je pense pas que c'est une job compétitive, la médecine. C'est une job où est-ce qu'il faut que tu sois au sommet de tes compétences, que tu sois excellent. Non, mais je pense pas que ce soit sain. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Parce que, tu sais, le but, c'est pas nous, on va sauver le plus de patients, moi, je vais sauver le plus de patients. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est pas d'avoir des médecins qui ont 100% dans tous leurs examens. C'est d'avoir des gens qui sont humains, qui ont des bonnes capacités, puis qui vont être en mesure de bien opérer au jour le jour avec les patients.
La question, c'est est-ce que tous les étudiants qui sortent avec succès de la faculté de médecine ont une job en sortant? Si oui, il n'y a pas de raison d'avoir une compétition là.
Ouais, la réponse, ouais, la réponse est oui.
Parce que
là,
le niveau de compétition, il peut être dans n'importe quelle autre faculté, dans n'importe quel autre programme d'études.
Ben, j'ai des amis qui sont en médecine en ce moment, puis la problématique, c'est pas de savoir qui va être le meilleur médecin, c'est vraiment qui est le meilleur étudiant. C'est ça qui se passe en ce moment. Parce que pour avoir tes stages, bon, souvent, c'est ceux qui ont... Ben, pour choisir encore plus ton stage, c'est ceux qui ont les meilleures notes pour choisir dans quelle région tu vas aller, avec qui tu vas, que tu vas exceller ou que tu vas pratiquer ton métier. Et elle est toute là, la compétition. Elle est entre les étudiants. Puis
et
ça, c'est,
ça,
quand
c'est
même...
pas toujours bon, tu vois, parce que...
Non.
Honnêtement, la compétition, c'est pas nécessairement toujours malsain. Au contraire, tu sais, dans la société, vous allez devoir vous distinguer, il y a pas de doute. Là, si
ça te pousse à aller plus loin.
Mais peut-être que c'est d'aller faire fausse route, de créer une compétition malsaine entre les étudiants sur leurs notes, et non sur leurs compétences. Et là, il faut faire une différence, une distinction entre ça. Puis, vous m'écrivez plusieurs à 25226, studio-commercial-fm93.com, parler de nivellement par le bas. Et vous n'avez pas à 100% tort. Puis, il y a probablement d'autres raisons que simplement la compétition puis les notes pour expliquer la détresse psychologique des médecins. Sauf qu'à quelque part, si on s'est rendu là, ben, il faut tenter d'autres choses. Faut pas rester avec les mêmes solutions. Parce que si tout le monde commence à, moi, ce que j'ai entendu en médecine, c'est l'utilisation de drogues chimiques pour rester réveillé, pour étudier pendant 24 heures de suite.
Cartel à l'université.
L'intimidation entre les candidats à la médecine. C'est-tu vraiment ça qu'on veut former chez nos candidats médecins? Fait que peut-être que c'est pas la panacée puis la meilleure solution d'enlever les notes complètement, de faire juste succès-échec.
Ouais, puis de toute manière, t'es pas prêt à exceller si t'as toute la pression mentale dans ta tête puis que t'as un épuisement justement psychologique suite à tes études. Mais quand je te dis que la pression est tellement forte entre les élèves, c'est que c'est rendu qu'il y a de l'intimidation aussi entre certaines personnes puis tu viens qu'à détester quelqu'un simplement parce qu'il est meilleur que toi à l'école.
Sauf que la question se pose, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est en 2018? Est-ce que c'est une amélioration, une évolution du système de se rendre là? Ou au contraire, c'est une régression de notre génération qui fait en sorte qu'on est moins capable d'en prendre? Puis ça, c'est une question que vous avez raison de vous poser. Mm-hmm. Parce qu'autrefois, il n'y avait peut-être pas ces mêmes questions-là qui étaient soulevées. Est-ce que c'est parce que la société était moins évoluée puis il y avait un système passé date puis qui fonctionnait pas, ou c'est parce que nous au contraire on est moins capable d'en prendre?
Ouais,
ça, vous avez le droit de vous poser cette question là parce que ça se peut. C'est pas impossible que la génération Y, les milléniaux, ait moins été habituée à la dure puis ait plus eu tout cuit dans le bec, puis là maintenant quand ils arrivent dans un programme qui est hautement compétitif et difficile, soient moins capables de faire face à la musique.
Est-ce qu'on a été élevé trop dans la ouate? Est-ce qu'on a été mis devant des échecs puis dire regarde, avec ton échec tu vas pouvoir te propulser encore plus loin, mais vis-le puis après ça on avance. Je sais pas où encore et non un échec. Hop, attends un peu, on va te rattraper avant que t'en fasses un.
J'ai tendance à penser ça qu'on a pas géré les échecs comme il faut en étant jeune. Puis quand on arrive à l'âge adulte, puis t'es tout seul devant ton échec, mais tu sais pas comment gérer plus.
Non. Puis ce qu'on voit aussi, il y a un gros clash entre les générations.
Je parle du risque d'échec, parce que c'est pas tout le monde qui coule.
Il y a un gros clash aussi entre les générations, à savoir, tu sais, mettons la tienne, vous avez été élevé un petit peu plus à la dure. Tu sais, il y avait des claques, c'est fait, ça se donnait. Les si, les ça, ça se donnait. Maintenant, pour une bonne raison, c'est inadmissible. La violence physique pour corriger un enfant, c'est inadmissible. Mais c'est un petit peu plus dur.
Ouais, mais
et peut-être que ça vous a préparé
je sais
à la
pas,
vie.
Je sais pas, je suis pas à l'école avec ces étudiants-là, mais tu sais, moi, je me suis jamais fait dire que c'était si important que ça d'être premier de classe, là. Ou premier dans ton sport, ou premier dans
Non, mais dans ces milieux-là, c'est le cas.
Oh mon Dieu, oui.
Ouais, c'est vraiment le cas.
Ouais, puis, mais je sais pas pour toi, JS, mais en tout cas, toute ma vie, moi, je me suis fait dire ça, là.
Ben oui, il y a toujours une pression.
Et tu valorises les élèves qui ont vraiment des bonnes notes. C'est toujours les chouchous en classe.
C'est ça l'affaire. C'est qu'avec le temps, on a valorisé seulement les résultats plutôt que de valoriser l'effort.
Il y a ça, puis
parce
aussi...
que deux élèves qui donnent le même effort n'auront pas nécessairement le même résultat. Mm-hmm. Mais le mérite des deux est égal.
Puis aussi la différence entre réussir un examen théorique en se bourrant la tête, parce qu'il y en a qui le font, là, puis c'est possible de le faire, de se bourrer la tête de notions, puis d'aller chercher ta mémoire à court terme pour avoir un excellent examen en par cœur. Mais finalement, tu te retrouves dans les circonstances pratiques de ton emploi, puis t'es pas aussi bon. Ça se peut très, très bien qu'un médecin soit très, très fort en termes de mémoire, mais en termes de relation avec son patient. C'est un peu la même chose avec les profs, c'est un peu la même chose avec tous les domaines. C'est juste que, puis je comprends, parce que vous êtes pas mal unanime à dire que c'est du nivellement par le bas, puis que ça va
pas
de bon sens.
Non, c'est pas du nivellement par le bas, parce que les critères seront pas changés.
Les critères d'admission sont pas changés,
puis les notes vont continuer d'exister, mais c'est juste ça. Dans les dossiers des
Exactement.
Profs.
Puis tu sais, un médecin qui a 60%, puis 65%, puis 70%, vous le savez pas, là. Quand vous allez dans le bureau du médecin, votre omnipraticien, votre médecin de famille, vous le savez pas s'il y a 65% ou 98% dans ses examens.
J'ai bien l'impression qu'à 65%, il ne passera pas, là.
Ben, je sais pas c'est quoi les critères.
En tout cas, j'espère.
Je sais pas c'est quoi les critères.
S'il passe à 65%, je vais pas l'avoir comme médecin.
Il y a quelque chose que je remarque là, par texto, puis je suis loin d'être la fille qui est féministe puis qui va défendre les femmes tout le temps. Moi, je fais plus la part des choses, puis je trouve ça important de la faire. Mais ça semble être la même personne qui nous écrit « Forte présence féminine égale difficulté à assumer la compétition
». Ben voyons.
Moi, je pense que c'est selon chaque individu que le sexe n'a pas rapport là-dedans. Il y a des gars qui se mettent énormément de pression, comme il y a des filles qui s'en mettent énormément et qui en mettent aux autres. Ça n'a pas rapport avec le sexe. Puis ça,
pour la pression pour les notes, par contre, la pression que les jeunes femmes se mettent est peut-être plus forte. Celle qu'elles se mettent.
On a tendance à plus se juger à la dure.
Oui.
Oui.
Le jugement est plus dur, puis ça c'est pas faux.
Mais c'est pas une généralité.
C'est pas une généralité.
Désolée, là.
Mais j'ai souvent remarqué, oui, chez mes collègues féminines, encore plus de pression sur leurs épaules pour avoir des bonnes
envers elles-mêmes.
Envers elles-mêmes, exactement.
Mais je pense pas que c'est général.
Non, c'est ça. Sauf je pense pas que c'est parce qu'il y a plus de femmes en médecine qu'on est face à cette problématique-là. De toute façon, je veux pas être plate avec vous autres, mais il y a plus de femmes dans à peu près toutes les facultés dans les universités aujourd'hui, en droit aussi, puis dans tous les autres domaines.
Check, ça entre encore. Donc, éliminer les notes, les hommes trouveront sa plate et quitteront la médecine en raison d'avoir moins d'hommes en médecine. Les hommes aiment compétitionner. En tout cas, c'est une féminisation mur à mur à venir. Il y aura moins d'hommes en médecine parce que c'est pas quelque chose qui va les intéresser de vivre dans ce genre de milieu-là qui n'est pas une compétition finalement.
Non, ça, je suis pas d'accord. C'est pas la même chose qu'une compétition sportive. Puis à l'école, c'est pas vrai que les hommes, ils restent là juste à cause de la compétition puis pour avoir des meilleures notes. Là. C'est complètement faux. Mais moi, ce que je veux voir là-dedans, c'est est-ce qu'on a juste mis une espèce de plaster sur le problème? Puis le problème est plus profond que ça. Puis c'est dans l'enseignement. Puis ça date peut-être de bien plus loin que ça dans leur enfance, puis tout ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des candidats qui sont hyper stressés, en dépression, avec des idées suicidaires. Ou bien, c'est vraiment ce système de notes-là qui est malsain, puis qui fait en sorte que les jeunes se sont créés ces espèces d'attentes insurmontables-là.
Parce que tu t'es fait dire toute ta vie que t'étais le meilleur, t'étais un champion, t'étais un as, t'étais un king. Puis là, t'arrives dans vraie vie, à l'école, à l'université, là, c'est peut-être pas toujours le cas, puis tu sais pas comment gérer ça, parce que tu t'es jamais fait dire que t'étais pas le meilleur.
Ouais, faut toujours travailler d'avance.
Mais l'autre affaire, c'est après ça, après la médecine, ça va-tu être la même affaire en génie? Ça va-tu être
la même affaire en droit?
La même affaire en plein d'affaires?
Oui, parce que c'est pas le seul domaine où il y a de la compétition. Mais je comprends les gens qui écrivent, par exemple, aimes-tu mieux te faire opérer par un médecin qui a eu 60% dans ses examens ou un qui a eu 95%? Tu sais, quand je vous disais mon opinion par rapport au fait, tu sais, si tu mets échec ou réussite, OK, parfait, ça va peut-être faire en sorte que les élèves vont se concentrer beaucoup plus sur leur étude que la compétition en tant que telle. Et que de l'autre côté, par exemple, je comprends le fait que moi, si j'ai 75, je voudrais le savoir. Si j'ai 90, je voudrais le savoir pour savoir à quel point j'ai acquis ma matière.
C'est 7-0-9-3-3-0 en passant. Là, si vous voulez vous exprimer là-dessus, vous êtes nombreux à réagir par texto. Qu'est-ce que vous en pensez de la fin des notes à l'Université Laval en faculté de médecine? Je vous rappelle que c'est pas seulement l'Université Laval. Là. C'est pas une particularité de Québec, là, qu'à Québec, les médecins sont plus faibles psychologiquement ou une affaire de même. Là. Donc, c'est 7-0-9-3-3-0, vous en pensez quoi? Au 25-2-2-6, jusqu'à maintenant, vous êtes unanime. Puis, il y a une partie de moi qui est assez d'accord avec, avec le fait que peut-être, oui, les notes ont encore un rôle à jouer à l'école. Puis, c'est pas vrai qu'il faut abolir ça partout. Mm-hmm. Sauf que, moi, je vous répète ma question de départ. Préférez-vous un médecin en burn-out qui s'est scrappé la santé mentale pendant ses études parce qu'il y avait trop de pression, trop de compétition malsaine entre les collègues universitaires, ou quelqu'un qui a eu une mention succès-échec puis qui l'a pris de façon un peu plus calme, un peu plus rationnel son parcours universitaire?
Je vois ça très positif si, par exemple, une personne qui est hyper stressée par ses notes réussit à mieux étudier parce qu'il n'y aura pas en arrière de sa tête le fait que, hey, faut vraiment que je. Ça me rentre pas dans la tête. Attends, là, lui, il a 95%. Ah, mon Dieu. Lui, moi, j'ai eu 76. Attends, ça me rend pas. Ça permet pas d'acquérir. Tu sais, ça permet pas de te mettre en tête ta matière, ça. C'est quand tu es continuellement dans cet état d'esprit-là. C'est impossible d'apprendre quelque chose.
Non, c'est ça.
Fait que si ça peut aider ce type de personne-là, je peux comprendre qu'on ait pris cette mesure-là, mais c'est sûr que ça a été étudié. Mais c'est un projet pilote de toute manière. On va voir si ça fonctionne.
Oui, c'est ça. On aura probablement des résultats. On verra si ça aide les gens à être un peu plus sains dans leur vision de leurs études. Serge, au téléphone, au 670-9330. Bonjour, Serge.
Bon matin. Moi, c'est arrivé. J'avais un petit problème caractériel, disons. Puis j'avais été voir un homme de... pas un psychologue, mais
un psychiatre?
Dans ce genre-là. Entre les deux, je sais pas trop là qu'est-ce qu'il était, mais en tout cas, puis il me donnait des conseils, mais vraiment bizarres. Puis à un moment donné, quand j'ai retourné pour aller le voir, ben il était suivi. Il me disait, ah ben je serai pas là la prochaine fois parce que je m'en vais consulter aussi.
Ouais, mais ça en tant que tel,
ça faisait particulier, ça veut dire que tout ce qu'il me disait là, c'était vraiment de la merde pareil là.
Ben, pas nécessairement. C'est-à-dire que vous devez pas vous devez pas rejeter de revers de la main qu'un professionnel consulte s'il y a des problèmes aussi. Au contraire, il prend soin de lui. Là. Vous devriez être inquiet
oui,
si vous avez...
Dépendant des conseils qu'il me donnait, pareil, là, parce que je trouvais ça spécial. Moi, j'avais des problèmes avec quelqu'un là, qui me disait « Va y faire son affaire, après, si tu vas être arrivé, tu vas te sentir mieux, là, t'auras plus de stress, blablabla, t'as une sortie. » Je disais « Hein, c'est-tu pour vrai? » Moi, je pensais que c'était sarcastique ou il faisait ça pour... en tout cas, je sais pas trop. Tant qu'il m'a dit ça après, mais j'ai compris que tout ce qui était avant qui pouvait avoir l'air bizarre, c'était vraiment bizarre pareil. Là.
Merci Serge de nous avoir appelé, bien oui. Apprécié. On va parler à André au téléphone. Bonjour André.
Oui, bonjour. Bon matin.
Bon matin.
Moi, je suis pas mal d'accord avec Jean-Simon. Pour avoir encadré des étudiants à l'Université Laval, bon, c'était en sciences et génie, mais je pense que mon propos est pertinent. L'intelligence émotive, l'intelligence sociale et l'intelligence les perceptions intellectuelles sont très très variées. On va avoir un étudiant particulièrement, je vais prendre en microbiologie. Il va être très très fort, il va être à une moyenne de 4.2 ou 4.3, puis il va en avoir un autre à 1.9, mais sur le terrain le 1.9 va être beaucoup plus efficace. Parce qu'il va être beaucoup plus à l'écoute de l'environnement, à l'écoute de son patron, à l'écoute des conseils des gens. Le 4.4 peut aussi bien penser qu'il y a la vérité.
Moi, je comprends ce que vous voulez dire.
Personne.
C'est l'ego,
ben,
des
c'est
fois, qui prend le dessus.
Oui,
c'est ça. C'est des gros égos, finalement, qui, des fois, sont pas bons avec les gens.
Exactement. Puis, combien de fois dans notre vie on a rencontré des médecins qui nous écoutent peu?
C'est vrai.
Ben, puis ce qu'on a besoin quand on va rencontrer un médecin, c'est bien qu'il écoute nos bobos avant d'émettre un diagnostic.
Oui, absolument.
Ben n'est-ce pas la même chose pour tout le monde? Puis d'ailleurs, maintenant dans l'examen d'entrée à l'Université Laval, il y a un volet écoute sociale,
okay.
Ce qui n'était pas le cas avant. On y allait seulement avec la cote R. Plus maintenant.
Ça démontre qu'il y a une évolution, certainement.
Et ça démontre aussi qu'il y a un besoin. Seulement une évolution. C'est que là, c'était des étudiants qui étaient très intelligents, mais souvent d'une intelligence. Un astrophysicien qui a deux postdocs, je sais quoi, vivre avec quelqu'un comme ça. Ça vit pas dans l'une, c'est un professeur tournesol.
Merci beaucoup, André, pour votre expérience. Ça amène une autre
éclairage.
Ça fait
plaisir.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Non, mais j'aime cette approche-là aussi, le fait que c'est important d'écouter. En fait, c'est que les bonnes notes peuvent être un indicateur de la compétence, mais ne sont pas une garantie de compétence. Mm-hmm. Vous pouvez avoir un médecin excessivement brillant, c'est un peu ce qu'André disait, mais qui arrive sur le terrain avec les patients, puis n'est pas capable de prendre soin des gens. Puis un médecin, c'est quelqu'un qui doit soigner les gens avant tout. Et puis ça, on l'oublie peut-être en ayant cette espèce d'obsession envers les notes. On va aller voir Jacques au 670-9330. Bonjour Jacques.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien.
Oui, moi, je m'en remets un peu. Là, c'est une petite expérience que j'ai eue pas longtemps, le 28 juillet, j'ai eu un accident.
Oui.
Et puis, je me suis rendu à l'hôpital assez vite. Et puis, j'ai resté là deux nuits. J'ai eu des médecins, l'oxygène, puis de la morphine intraveineuse. J'avais deux, avec les radiographies puis les crocs qui m'ont passé, j'avais deux côtes de cassé.
Oui.
Et bon, fait que là, j'ai sorti de là avec des médicaments. Puis là, le mardi suivant, le 31, là, c'était insupportable. Le mal s'était déplacé ailleurs. Fait que j'ai retourné à l'urgence.
Oui.
Puis le médecin que j'ai vu à l'urgence, c'était pas le même. J'en ai vu trois le samedi.
OK.
Lui, il a passé un écho. Il a dit, oups, attends un petit peu, toi, tu t'en vas sur le taco, tu t'apprêtes. Parce que lui, il a eu la brillante idée de me faire passer un taco, parce que les autres n'avaient pas été plus loin. Puis lui, il a découvert, il dit, ah, on va aller voir si ton fouet ou ta rate n'est pas attaqué.
OK.
À cause des côtes. Puis en fin de compte, heureusement pour moi, c'était pas attaqué, mais il a découvert que j'avais un kyste sur un rein, puis que le haut de mon poumon il était décollé.
Okay.
Et les autres n'avaient pas pensé à ça.
Non, je comprends. C'est pas tous les médecins qui sont également compétents, puis des fois, ils se parlent pas non plus dans le système. Merci beaucoup, Jacques. C'est 709330. Qu'est-ce que vous pensez de la fin des notes pour les futurs médecins à l'Université Laval? On abolit ça en raison des problèmes psychologiques des étudiants, des résidents, des médecins également. Au 670-9330. Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Pascal, au 25226, comment les gens se positionnent?
Hey, mon Dieu, les gens, ça les interpelle énormément. Il y a Dave qui dit, c'est comme ça partout au Canada, c'est une amélioration et l'important, c'est d'acquérir les compétences. La note devient un peu secondaire. Quelqu'un qui nous écrit aussi, vous oubliez une chose, le trichage. Plusieurs étudiants ont de très bonnes notes parce qu'ils savent bien tricher. Ils ont de bonnes notes, mais n'ont pas de talent ni vraiment d'habilité. Je pense que ce niveau de stress vient de cette injustice. Et avec les selles, les tablettes et tout ça, on veut des bonnes notes. Donc, ils pensent que ça provient aussi de d'autres facteurs, ce stress-là. Quelqu'un qui nous dit, hey, moi, j'ai suivi mon cours d'infirmière auxiliaire en 2004 et il ne donnait pas de notes. Il nous disait c'est un échec ou une réussite, mais la note de passage était de 80% dans tous les modules. Ça, c'est intéressant.
Fait que là, on a la preuve un peu comme Vess disait, là, que des médecins qui passent à 60%, là,
ça existe pas. Là.
Non, ça fait pas de sens. Mm. Tu peux pas, c'est 50 des fois la note de passage dans certains cours à l'université. Là, ça ferait aucun sens que tu fasses passer un médecin avec une note de passage aussi basse.
Il manquait ça là, dans l'argumentaire. Effectivement, c'est un très, très bon point. Quelqu'un qui dit, pourquoi faut toujours obliger les institutions à changer plutôt que d'éduquer les humains? Est-ce que c'est rendu impossible? C'est une bonne façon de voir les choses aussi.
Absolument.
Est-ce qu'on va au bon noyau du problème?
670-9330. Christiane est au bout du fil. Bonjour, Christiane.
Oui, bonjour. Regardez, si le médecin n'est pas capable de subir une pression entre collègues là, étudiants, comment est-ce que vous voulez qu'il subisse une pression dans une salle d'opération quand il y a un cas qui est bien difficile? Ou qu'il y a une pression au niveau là des horaires. Au niveau médical, c'est un endroit où il y a beaucoup de pression. S'ils sont pas capables d'avoir de subir une pression en étudiant, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'on va avoir comme médecin qui va nous soigner?
Mais vous croyez pas que c'est possible d'avoir un médecin qui, en termes d'études théoriques, peut avoir de l'anxiété par rapport aux notes des autres, mais quand il arrive avec les patients, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est compétent. Vous pensez que la compétence vient nécessairement des bonnes notes puis de la pression liée aux notes?
Pas nécessairement, sauf qu'à quelque part, vous comme moi, là, on vit tous les deux dans la même ère.
Oui.
Il y a de la pression partout. Il y a de la compétition partout.
C'est clair.
C'est un moment donné, il faut que tu sois capable de gérer ça. Puis moi, j'ai toujours dit, ma fille est orthopédagogue. J'ai dit, si mettons à l'école, t'as 70%, mais la moyenne de classe est à 60, t'es très bonne. Mais si t'as 80%, puis que la moyenne de classe est à 95, t'as un problème. Comment tu veux juger ça si tu sais pas c'est quoi la moyenne de ta classe, la moyenne de ton groupe, par rapport à ce que tu fais? C'est ridicule.
Non, mais tant qu'on est en mesure. Ouais, non, mais je comprends votre point. Votre point est loin d'être fou, Christiane. C'est pas. C'est un bon questionnement que vous avez. Moi, la seule chose, c'est que je me demande si nécessairement les notes sont gages de compétence chez les médecins ou s'il n'y a pas d'autres critères aussi qui sont importants. Merci beaucoup, Christiane, de nous avoir appelé. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que. Puis vous voyez comment c'est ancré dans nos mentalités, là. Puis, tu sais, je pense qu'on a tellement mis l'accent là-dessus, les notes, puis l'importance. Puis j'osais récemment avec un policier aussi qui disait que on avait trop axé là-dessus aussi pour la sélection des agents de police, puis qu'on se retrouvait avec certaines personnes qui étaient nulles sur le terrain, qui n'étaient pas bons en intervention puis en arrestation. Ils n'étaient pas capables de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris pendant leur cours. Mais quand ils arrivaient à leur test, eux autres, ça allait super bien, puis il y avait des bonnes notes dans les autres matières. Or, c'était pas nécessairement les compétences recherchées.
Puis sérieusement, il y a aussi le fait que ça se peut que tu sois pas fait pour le métier. Puis je comprends un petit peu l'argumentaire de cette femme-là qui dit, s'il n'est pas capable de gérer le stress dans ses études, est-ce qu'il va être capable de gérer le stress une fois à l'hôpital? Parce que ça ne veut pas dire que tu vas être un bon médecin si tu rêves d'être médecin. Ça se peut que tu sois pas capable d'acquérir tout ce qu'il te faut pour l'aide. Moi, j'aurais bien voulu être une chanteuse dans la vie, là. Ça vous tente pas que je fasse un album.
J'aurais voulu être une artiste.
Ça vous tente pas que je fasse un album. Puis je m'en suis rendu compte avant de vous en faire un puis de commencer à publier ça partout.
Puis les médecins, c'est parce qu'on a toujours associer les gens qui étudient en médecine à l'élite intellectuelle, les brainiacs, les plus brillants, les QI les plus élevés, les notes les plus fortes, alors que c'est pas juste ça, un médecin. C'est vrai que c'est important, c'est vrai que ça prend un certain niveau intellectuel, c'est évident.
Ben oui, tu veux pas d'erreur médicale.
C'est évident que
tu joues avec la vie de quelqu'un.
Ça prend des gens qui sont brillants, puis ça prend des intellectuels, c'est certain. Mais ça prend aussi des gens qui sont humains. Puis de plus en plus, on parle de ça, l'intelligence émotionnelle, puis on se rend compte qu'on a trop axé sur l'intelligence rationnelle, puis qu'on a trop laissé de côté tout ce qui est relation de l'un à l'autre. Puis c'est pour ça que peut-être qu'on a des problèmes aussi avec certains médecins. Puis qu'on a autant d'histoires d'inhumanité puis de gens qui se font bâcler leur diagnostic puis qui n'ont pas l'impression d'être écoutés.
Il y a aussi le fait que, tu sais, on a parlé beaucoup des primes des médecins parce qu'il y a des gens qui le font pour l'argent. Parce qu'ils ont les compétences de le faire. Puis ça, je trouve ça bon quand quelqu'un nous ramène sur le fait qu'il faut que aussi ça soit une personne humaine parce qu'il travaille avec des humains. Il faut avoir ce côté-là aussi. Pas juste l'intérêt pécunier au bout du compte.
Oui, mais il y a une différence aussi entre la pression de la compétition pendant tes études puis la pression de la performance quand t'es médecin au-dessus de la table d'opération, comme Christiane nous le disait. Son questionnement est bon, mais c'est pas le même type de pression. Tu sais, puis t'as parfaitement raison quand tu dis que oui, il faut être humain. C'est la même différence entre être très bon en théorie puis être très mauvais en pratique.
Et voilà.
Ou l'inverse.
Et voilà.
Tu peux être limité dans tes performances en théorie, dans un examen théorique, mais en pratique, tu l'as parce que t'as un sixième sens qui te permet d'avoir les compétences nécessaires pour pratiquer le métier que tu veux pratiquer.
C'est niaiseux comme exemple. Un grand connaisseur de hockey qui connaît toutes les facettes du jeu, toute l'histoire du jeu, toute la stratégie peut être un très, très mauvais joueur sur patin. Là.
Et commentateur analyste.
Les meilleurs coachs n'ont pas été les meilleurs joueurs. Et l'inverse est aussi vrai. Les meilleurs joueurs n'ont jamais été des meilleurs coachs.
C'est beaucoup la loi du plus fort qui ressort dans les textos. Et je sais pas si c'est bon signe pour notre société qu'on a encore cette volonté-là. Puis Dieu sait que la compétition, il faut qu'il y en ait un peu dans la société. Puis oui, il y a un élément de plus fort puis de plus faible. Puis c'est pas vrai que c'est juste. Sauf que, est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société où est-ce que c'est la loi du plus fort à ce point-là? Après ça, faut pas se questionner sur toutes les statistiques qu'on a en termes psychologiques puis sur les pilules, tout ça. Si c'est vraiment comme ça qu'on voit la vie, simplement d'une loi de la jungle, ou est-ce que c'est seulement ceux qui sont les meilleurs qui bouffent les autres? Ça se peut qu'on ait des ennuis psychologiques, ça se pourrait.
Puis tu changeras pas le métier de toute manière. Il faut que ça soit quelqu'un d'extrêmement fort dans les études ou encore dans la façon...
De toute façon, il rentrera pas aux études.
Non, sinon. C'est ça. Fait que ça reste que c'est ça. La question, c'est au-dessus de cette problématique-là. C'est à savoir, est-ce qu'on doit mettre de la compétition dans les études ou pas?
Non, moi je pense pas. Zéro plus une barre. C'est pas aux études qu'il faut que tu sois le meilleur. C'est quand tu vas être médecin qu'il faut que tu sois le meilleur.
Tu vois, j'aime bien ce texto-là. Le problème, ce n'est pas les notes, mais les dimensions qui sont notées. C'est pas mauvais, ça. C'est-à-dire que si tu fais juste, dans le fond, les notes, c'est juste sur la théorie, puis ce que tu as appris dans ta mémoire, tout ça. Mais si tu notais aussi ta capacité à écouter les autres, j'imagine, j'ose croire que, mettons, en psychologie,
il y a de ça qui est noté. Là. Qu'il n'y a pas cette portion-là.
Il y a beaucoup de pratique, l'université.
Mm-hmm. Oui, mais j'espère qu'il y a cette espèce d'aspect-là, de la relation de personne à personne, qui est évaluée, puis qui sert à quelque chose, puis qu'on met pas juste ça sur le côté, sur le carreau, en pensant juste à la performance. Continuez de nous écrire au 25226 au studio commercial fm93.com. Je trouve ça fort intéressant de vous lire. Puis je comprends la préoccupation par rapport au nivellement par là-bas, le bas, l'importance l'importance de l'esprit de compétition dans un domaine professionnel. Mais en même temps, il y avait un problème réel et là, on essaie quelque chose. On verra ce que ça donne. C'est un projet pilote. Mais sachez-le, à partir de maintenant, c'est fini les notes pour les futurs médecins. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ne seront pas capables de nous soigner. 6h59.
La grande messe du rock avec Jackie Bar. Tout le week-end au FM 93.
Pour ceux qui aiment être les premiers à pêcher sur le lac, ça tombe bien. On a le premier choix sécurité pour s'y rendre. La Hardback 2018 a une liste de caractéristiques de sécurité longue de même. Puis c'est pas une histoire de pêche. Voyez nos offres sur québecsubaru.ca. Subaru. Confiance et évolution.
La lutte au titre de la NASCAR Pinty's est plus chaude que jamais. LP Dumoulin, Kevin Lacroix et André Bourangier ont déjà gagné. Quant à Alex Taliani, il veut défendre son titre de champion du Grand Prix de Trois-Rivières. Tu veux être témoin de la bagarre du 10 au 12 août? Réserve tes places maintenant, gp3r.com.
Dave, t'aimerais pas ça qu'on aménage la cour?
Ben là, il y en a déjà des plantes.
Oui, mais il manque l'éclairage. Puis tant qu'à faire une haie de cèdre, puis une belle clôture, puis...
Ah ben! Salut les voisins! Hé, hey, beau maillot, mon Dave!
Envoie donc pour la clôture, genre 12 pieds.
Vendredi à lundi, chez Renault Dépôt, obtenez 20 % de rabais à l'achat de 450 $ et plus sur tout en magasin ou en ligne. Les conditions s'appliquent.
Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans.
Numéro 1.
Avec 20 $ d'épicerie, envoyez à Saint-Tite. Merci les marchés de tradition.
Participez au concours, le country, c'est dans nos traditions. Chaque tranche de 20 $ d'achat chez les marchés de tradition vous donne la chance de partir à Saint-Tite. Les finalistes pourront même gagner un voyage au Texas. Détails en magasin et sur marchétradition.com.
OK, toute l'équipe, on se rapproche. Êtes-vous prêts à vous amuser?
Coach, on n'a pas de gardien de but.
Mais elle est où, Magali?
Là-bas, en train de cueillir des trèfles à quatre feuilles.
Continue comme ça, Mag! C'est bon, ça. Des fois, dans le monde du sport, on a besoin d'un peu de chance.
Les propriétaires de restaurants Tim Hortons locaux sont fiers de parrainer le soccer Timbits dans la région de la Capitale-Nationale, appuyant ainsi plus de 6000 enfants chaque année. Le soccer Timbits, où le but premier est d'avoir du plaisir.
C'est la grande vente après rénovation à l'entrepôt du hockey L'Ancienne Lorette. Profitez de minimum 20 % sur les patins, bâtons et équipements de protection à prix régulier. Du 8 au 12 août seulement. À l'entrepôt du hockey L'Ancienne Lorette, derrière le Canadian Tire du Plessis.
Moi, j'ai toujours rêvé de voler. Mais bon, je sais bien que traverser la forêt à 50 km/h et survoler un canyon majestueux, les pieds dans le vide, à bord d'une installation pour toute la famille unique au Canada, ben, c'est impossible.
Le Air Canyon du Canyon Sainte-Anne.
Tout est possible.
CanyonSA.qc.ca.
Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt.
Salut Sylvain.
Michel, chez Céramique L'Entrepôt, il y a des gens qui pensent que vous vendez juste des fins de l'eau puis des liquidations. C'est pas vrai.
Effectivement, Sylvain. Chaque semaine, les plus grands distributeurs nous présentent leurs nouveautés, on sélectionne les plus beaux produits et on négocie au prix palette. C'est ce qui fait que chez nous, vous avez toujours le prix d'entrepôt.
Donc, de base, en partant, c'est 15 à 40% moins cher tout le temps.
Exact, Sylvain.
Ben, coudonc, pour les plus belles nouveautés, toujours à prix d'entrepôt, allez chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement que les temps ont changé. Découvrez comment Duproprio peut vous aider à vendre votre maison sans commission lors d'une séance d'information gratuite le 14 août au Centre des congrès et d'exposition de Lévis dès 19h30. Détails sur duproprio.com.
À compter du 17 octobre, le cannabis sera légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis pourra en vendre. Un adulte pourra posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où ce sera interdit. On ne pourra pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, et bien sûr, on ne pourra pas conduire après en avoir consommé. Pas de risque à prendre. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Cet été, frappez un grand coup. Roulez en Civic 2018 grâce à un boni de 750 $. Certains parleront d'un coup de pub, d'autres d'un coup de chaleur. La vérité, c'est que Honda vous donne un coup de pouce pour mettre la main sur votre coup de cœur, la Honda Civic. Recommandé par Protégez-vous, offerte avec un boni de $750 et un taux à la location 48 mois de 0,99. Ça sent le coup de foudre. Sur approbation de crédit, boni non applicable à la type R. Détails sur rondaquebec.ca.
Tim Hortons sert maintenant des déjeuners en tout temps. Oui, oui, un délicieux petit matin quand vous le voulez. Une galette de pommes de terre croustillante à n'importe quelle heure. OK, c'est beau, là, on a compris. Déjeuner en tout temps, en tout time, dans les restaurants participants.
Au marché du Vieux-Port de Québec, les étalages débordent de saveurs. Passez voir les producteurs locaux et faites le plein de fruits et légumes fraîchement récoltés pour vous.
Votre visite au marché du Vieux-Port de Québec pourrait vous amener à New York pour découvrir le traditionnel marché de Noël. Avouez que c'est génial! Pour participer, textez le mot « été » au 25226.
Marché du Vieux-Port de Québec, même fraîcheur, même endroit. Le marché du Vieux-Port, 7 jours sur 7. Marchédivieuxport.com.
FM 93.
CGMF 93.3 Québec.
Le FM 93, c'est de l'actualité, c'est de l'opinion, c'est du sport, c'est des collaborateurs de tous les milieux.
Une radio Cogeco Média.
FM 93.
Audace, crédibilité, Québec.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Jean-Simon Buis.
7h05 au FM 93. Bon matin à tous. On est jeudi le 8 août et dans la circulation, Vest, que se passe-t-il?
Oui, on nous dit que sur le pont La Porte, il y a encore des endroits où il y a des dénivellations en raison des travaux de pavage là, qui sont en cours durant les nuits. Sauf qu'au moment où on se parle, c'est pas comme hier, ça circule bien. Il n'y a pas de ralentissement à l'entrée du pont comme c'était le cas hier, donc on va en profiter. Je vous rappelle que ce soir, il y a des grands fils Auto-Québec sur le fleuve, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de service de traversier entre 21h15 et 22h40.
L'élargissement de l'autoroute Henri IV coûtera finalement 200 millions de moins que prévu. La facture initialement évaluée à 450 millions a été réduite à 291 millions. La première pelletée de terre inaugurale a été faite hier en présence de ministres fédéraux et provinciaux. Des mesures d'atténuation seront mises en place durant les travaux pour éviter d'importantes congestions. Les travaux doivent s'étirer jusqu'en 2023. L'une des adolescentes mêlées à l'histoire de partage de photos explicites au séminaire des Pères Maristes s'est confiée en exclusivité au FM 93. Celle qu'on a appellera Coralie afin de protéger son identité, déplore notamment l'attitude des adultes en position d'autorité au séminaire des Pères Maristes dans la gestion de cette crise. L'adolescente s'est également ouverte sur sa tentative de suicide et la souffrance qu'elle vit encore. L'enquête n'est pas terminée dans ce dossier, mais la direction prévoit la réintégration des 6 adolescents en septembre. Les jeunes filles changeront d'école si la décision de la direction est maintenue. L'entrevue intégrale est disponible au fm93.com. Et finalement, un débat a réuni hier le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et les porte-parole en santé des autres formations politiques québécoises. La joute a donné un aperçu des sujets qui risquent d'être abordés en campagne électorale, notamment le temps d'attente aux urgences. Tant le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire se sont engagés à revoir l'entente sur la rémunération des médecins spécialistes.
Au tennis, après avoir mené 4-1 dans le troisième set et 4-1 également dans le bris d'égalité, Félix Auger-Aliassime s'est finalement incliné en trois manches hier contre le Russe Daniil Medvedev au deuxième tour de la Coupe Rogers. Milos Raonic a perdu en deux manches contre l'Américain Francis Tiafoe. Denis Shapovalov, lui, a atteint la troisième ronde avec une victoire en deux manches contre Fabio Fognini. Et à Montréal, Françoise Abanda s'est incliné contre la troisième favorite Sloane Stephens. Au baseball, défaite des Capitals 8-4 contre les Boulders à Rockland. Et en ski acrobatique, l'année des Sœurs du Four La Pointe, Maxime a annoncé hier qu'elle mettait fin à sa carrière.
Tranquillement, le soleil tente de se faire une place dans le ciel et alternant soleil-nuage, c'est réellement ce qu'on aura aujourd'hui avec un maximum à 26 degrés. Avec l'humidex, c'est chaud, c'est collant. 34, c'est ce qu'on ressentira. Par contre, le soleil est de retour à partir de demain et ce jusqu'à mardi prochain avec des températures allant jusqu'à 29 degrés. Actuellement, il fait 20 à Québec.
C'est 7h08, histoire à glacer le sang parce que je pense que c'est la phobie de plusieurs personnes de se faire espionner à son insu. Il n'y a pas grand-chose de plus insultant, de plus effrayant que de penser que quelqu'un peut profiter de ta vulnérabilité pour t'espionner puis te prendre des images de toi sans ton consentement. C'est un viol, en fait. C'est une forme de viol, un viol de ton intimité. Et c'est une histoire qui est arrivée en Estrie et qui t'a fait passablement réagir ce matin, Pascal.
À chaque fois que j'entends ça, moi, parce que j'y pense, OK? Depuis le premier cas qui est sorti médiatiquement il y a quelques années, on dirait qu'à chaque fois où je loue un appartement, tout ça, ben, c'est sûr que je peut-être vous dirai que j'ai un problème, là, peut-être, pour certains. Mais je regarde si c'est pas installé. J'ai même défait ma
pompe de douche à un moment donné parce que
Oui.
Je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui pensent à ça. Puis je me dis, c'est pas si difficile que ça. Alors pourquoi pas regarder si ça c'est chez nous. Mais c'est un avocat montréalais qui est suspendu indéfiniment de son cabinet parce qu'il a été arrêté pour avoir installé une caméra dans la salle de bain de son chalet en Estrie pour filmer une petite famille à leur insu. Fait que lui, il louait son chalet puis il a installé une caméra dans la salle de bain pour être sûr d'avoir des images des gens qui se déshabillent, qui vont prendre leur douche. Je trouve ça vraiment horrifiant. Il s'appelle Samuel Bauger Malenfant. Il a 25 ans, tout jeune, commençait sa carrière. Il est accusé de voyeurisme, de production de possession de pornographie juvénile. Il a comparu à Sherbrooke. Mais tu sais, c'est un cas qu'on a vu, je veux pas dire souvent, mais qu'on a vu à quelques reprises dans les médias. Puis, câline que ça me donne pas espoir en l'humanité. Toi, non, tu loues un chalet avec ta petite famille, tu décides que tu veux passer du bon temps, puis un genre de personne comme ça qui décide de mettre des caméras pour te filmer dans ta plus grande vulnérabilité puis dans ton intimité.
T'accordes ta confiance à cette personne-là, t'es avec tes enfants, tu veux passer un bon moment, puis la personne fait ça pour satisfaire sa propre perversion. C'est... Mais je te comprends un petit peu de faire la vérification quand tu rentres dans un nouvel appartement, parce que tu sais tellement pas qu'est-ce que tu vas avoir à faire. T'sais, le gars, il est avocat, il est membre du barreau. Normalement, c'est supposé être une feuille vierge, en tout cas, théoriquement.
Il connaît les risques d'infraction criminelle.
En théorie, quand tu es un avocat, tu es supposé avoir un dossier vierge, tu es supposé être une personne irréprochable. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de vérifier jusqu'à ce que tu aies ton barreau. Là, par la suite, il peut toujours y avoir des pommes pourrites, comme c'est le cas ici. Là. Mais non, ça n'a pas de bon sens d'imaginer qu'il y a des gens qui profitent des autres à ce point-là.
Ah non, puis écoute ça, OK? Si la famille n'avait pas été vigilante puis n'avait pas décidé de regarder, parce qu'ils trouvaient ça un peu étrange dans la salle de bain, qui est comme un genre de cadran bizarre positionné d'une façon... anormal.
Pas naturel.
Non. Ils ont regardé puis ont remarqué qu'il y avait une caméra espion dans la salle de bain. Elle a été placée pour prendre des images des gens, justement, dans la salle de bain. Puis, une fois qu'ils se sont rendus compte de ça, ils ont appelé la police, mais ils ont aussi appelé Samuel Bauger Malenfant, pour le confronter puis demander c'est quoi ça? Pourquoi une caméra dans ta salle de bain? Est-ce que ça te sert à toi puis t'as oublié de l'enlever? Là est la question. Puis, lui, il a pris la fuite avec un couteau. Quand on l'a confronté. Puis il a dit aussi qu'il voulait s'enlever la vie, puis tout ça. Fait qu'il a essayé de se montrer vulnérable peut-être pour attirer la sympathie ou que les gens portent pas plainte, là, mais qui porterait pas plainte dans un cas comme celui-là?
Non, mais on a quand même une chance qui est assez importante dans ces cas-ci, c'est que la plupart des criminels et des pervers sont aussi des imbéciles. Et ça, c'est une chose qu'on doit remercier, là, parce qu'on doit remercier le ciel puis remercier la vie. La plupart du temps, ils font des choses comme ça. C'est trois parents, c'est facile à voir, ça fait en sorte qu'on les pogne assez rapidement. C'est rare qu'on ait des génies du crime qui réussissent à placer des choses que tu peux absolument pas te douter puis que ça dure pendant 2, 3, 4 ans.
Ben,
ça arrive, mais c'est plus rare.
Ben,
la plupart du temps, heureusement, les gens font des gaffes puis ça fait en sorte qu'on les pogne.
Rappelle-toi, on en avait parlé ici au 4... ben, dans Bouchard en parle. Je peux pas te dire c'est où exactement, mais il me semble que c'était sur la rive sud, OK? Il y a une dame qui nous avait parlé pour dire que lui, son ex-conjoint, avait démonté la salle de bain pour mettre une caméra en dessous de la céramique de la douche pour filmer sa propre fille, ben, la fille de sa conjointe, c'était pas son père. Puis elle s'en est rendue compte parce qu'à un moment donné, elle était souvent sur son ordinateur. Puis elle avait pas le droit de consulter son ordinateur. Puis un moment donné, elle trouvait ça louche. Puis elle dit, regarde, moi, je vais aller à la maison puis je vais aller chercher les informations de son disque dur. Puis là, ça a fait une grosse série de chicanes. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y avait des images de sa fille.
Prenez
sa douche.
Sachez que dans certains pays, c'est une épidémie, les caméras espions, dans le but d'aller chercher des vidéos de personnes nues. En Corée du Sud, il y a une manifestation de dizaines de milliers de femmes cet été pour dénoncer ça, parce qu'il était rendu à, je pense, 6500 caméras espions. C'est rendu une épidémie, il y en a partout. Les femmes recherchent dans tous les endroits, les toilettes publiques, chez elles, parce qu'il y a trop de monde qui font cette pratique-là, imagine. Fait qu'il y a des pays où c'est rendu un problème national, d'envergure nationale. Fait que ici, on a nos pervers à l'occasion, mais là-bas, on a vraiment des cas à répétition par milliers, imagine.
Mais je trouve ça dur de lire, puis c'est sa job, c'est son avocat, mais l'avocat de Bauger Malenfant, il s'appelle Olivier Morin, puis il dit « Mon client est complètement sonné, il se sent mieux, mais il est référé aux ressources appropriées pour contrôler cette situation de crise. » Un peu, là, c'est toi qui l'as provoqué.
Ouais, c'est une crise, mais t'es l'artisan de ton propre malheur.
Voyons donc.
Alors c'est ça, c'est malheureusement pas, comme tu le dis, une raison d'avoir foi en l'espèce humaine. 7h13.
Doc Mailloux et José en vacances.
Doc Mailloux et José, de retour en onde le 13 août.
FM 93.
L'odeur d'une voiture neuve.
C'est un bon feeling, surtout en ce moment.
Comment ça?
C'est le décompte final chez Hyundai, la liquidation finale sur les Elantra, Tucson, Santa Fe 2018 et plus.
Plus?
Plus financement à 0% pour 84 mois sur certains modèles.
Ça, c'est une offre.
T'as du flair pour les bonnes affaires.
En ce moment, louez l'Elantra L 2018 manuel à partir de 39 $ par semaine pour 261 semaines avec 295 $ comptant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Visitez hyundaicanada.com pour les détails.
Je parle avec Michel de Céramique L'Entrepôt.
Salut Sylvain.
Michel, mettons que tu as un client qui te dit qu'ailleurs, ils ont une vente de 10, 20 ou 30 % de rabais. Tu réponds quoi à ça?
Ben Sylvain, c'est pas compliqué. Que ce soit sur les planchers flottants, les pierres murales, le vinyle clic ou la céramique, notre volume d'achat fait que chez Céramique L'Entrepôt, on offre des économies de 10 à 40 %, mais tout le temps. C'est ça qu'on appelle chez nous le prix palette.
C'est assez clair, merci. Alors pour des économies à l'année, allez chez l'incontournable à Québec, Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Du 9 au 12 août, Lévis vibrera au son du festival Jazz etc. Des spectacles extérieurs gratuits sur deux scènes. Du jazz accessible à tous. Liana Bureau, The Brooks, Karl Mayotte,
les grands duos.
Addicted, hommage à Amy Winehouse.
Come on Jazz.
Plusieurs spectacles dans les restaurants et les commerces de Lévis. Procurez-vous le macaron du festival, plusieurs prix à gagner. Programmation au jazzlevis.com. Le festival Jazz etc., une présentation de Desjardins en collaboration avec la Ville de Lévis, Énergie Valero, le Journal de Québec et le FM 93.
Ne manquez pas la 39e édition de la Coupe Rogers sur TVA Sports jusqu'au 12 août. Voyez les meilleures raquettes féminines, dont Simona Halep, Caroline Wozniacki et Eugénie Bouchard.
TVA Sports, au service jusqu'au 12 août.
Abonnez-vous maintenant.
On sait tous qu'il y a plein de choses à penser pour la rentrée scolaire. Où sont mes locaux? Quel manuel? Est-ce que je peux manger de la pizza à chaque repas, genre? Bref, vous en avez déjà assez à penser. Laissez la collection Bloom de Dormez-vous s'occuper de votre matelas. Obtenez un matelas dans une boîte Bloom en ligne pour aussi peu que 295 $ avec livraison gratuite presque partout au pays, que vous viviez sur un campus ou non. En plus, dormez tranquille grâce à la garantie de 100 nuits de confort. Génial! Magasinez à dormez-vous.com/Bloom.
Alpha Assurance, c'est simple, sont présents quand ça compte. Comme la fois où un chevreuil un peu téméraire a traversé la rue alors qu'on partait célébrer le 50e anniversaire de mariage de mes parents en Gaspésie. Personne n'a été blessé, mais la voiture, elle, pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance nous a fourni un véhicule de remplacement pour qu'on puisse reprendre la route rapidement, on était plus que soulagés. 50 ans de mariage, on voulait pas rater ça.
Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance, toujours votre bonne étoile.
L'FM 93 est fier de souligner la réouverture de la rôtisserie Saint-Hubert Jules Verne. Suite à d'importantes rénovations ayant nécessité un investissement de 1,6 million, elle compte désormais 331 places. Le Saint-Hubert Jules Verne est le restaurant de toute la chaîne au Québec qui accueille le plus de clients avec 420 000 annuellement. Saint-Hubert, c'est 75 000 clients satisfaits chaque semaine. Saint-Hubert, c'est des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. 11 succursales à Québec, Saint-Hubert, l'authentique barbecue.
Vous cherchez des électros à bas prix? Saviez-vous que présentement, Corbeil ne vous offre que les meilleurs prix sur tous ses électroménagers? Non seulement vous profitez du meilleur prix, mais vous profitez également des conseils du spécialiste. En plus, nous vous offrons la livraison gratuite le lendemain de votre achat. Sans oublier que le spécialiste vous offre le financement gratuit sans intérêt. Corbeil est la destination pour trouver tous vos électros, et ce, au meilleur prix garanti.
Le spécialiste l'électroménager, c'est Corbeil.
Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeilelectro.com.
Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement que les temps ont changé. Découvrez comment Duproprio peut vous aider à vendre votre maison sans commission lors d'une séance d'information gratuite le 14 août au Centre des congrès et d'expositions de Lévis dès 19h30. Détails sur duproprio.com.
Chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, c'est l'événement Passez chercher votre chèque de vacances. 2000 ou 4000 $ comptant le jour même selon le modèle choisi. Et on rachète votre bail. Mais ça se termine le 31 août chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, ouvert le samedi.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
Avec Jean-Simon Puis, FM 93.
93.
7h18, on aborde assez régulièrement la problématique du don d'organes, la signature en arrière de la carte. On le dit pas assez comment c'est important de le faire, là, de prendre le temps juste de le signer pour s'assurer que si jamais il vous arrive quelque chose, vous puissiez peut-être servir à quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un. Je pense que c'est une problématique qu'on doit aborder assez fréquemment. Sauf que, quand on pense à ça, justement, on pense à quelqu'un qui a un accident de la route, quelqu'un qui est d'un mort cérébral puis dont on va pouvoir prélever les organes pour sauver une autre personne. Le don vivant. Là, évidemment, vous allez dire, oh, je peux pas donner mon cœur quand je suis vivant. Oui, c'est sûr, il y a des organes que vous ne pouvez pas donner, c'est certain. Vous en avez juste un. On peut pas faire la greffe de n'importe quoi. Mais vous avez deux reins. Vous avez deux reins et c'est possible de vivre avec un seul rein. OK? Honnêtement, je comprends votre réaction déjà. Là. Ça se peut que vous frémissiez. Vous allez, mon Dieu, je ferais jamais ça. C'est une grosse opération. Perdre un rein, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je faisais ça? Sachez qu'il y a un investissement qui est du gouvernement qui a été annoncé dernièrement au CHUM pour un programme québécois de dons vivants de reins. Donc, on va injecter de l'argent pour inciter les gens à le faire. C'est une problématique qui est méconnue. Et pour en jaser ce matin, on reçoit tout d'abord le président de l'Association des néphrologues du Québec, le docteur Robert Charbonneau, et également un couple de donneurs et de receveurs, Louise Rochette et Louis Trudel. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Commencez avec docteur Charbonneau. D'abord, je vous ai parlé du don, le don vivant de rein en introduction. Ça se peut, ça, de vivre avec un rein, avec une qualité de vie qui a du bon sens?
Absolument. Bien entendu, comme vous disiez en introduction, on est habitué avec le don d'organes chez des gens qui sont malheureusement décédés. Mais oui, on peut donner de notre vivant un rein. Comme vous disiez, on a deux reins et on peut vivre très bien avec un seul rein. Les études, on a eu des inquiétudes au début, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, à savoir si c'était quelque chose qui pouvait mettre en danger la santé des donneurs, mais non, on a quand même de la littérature scientifique aujourd'hui qui nous dit que c'est pas dangereux. Après une évaluation complète, si le candidat répond à certains critères, ben oui, il n'y a pas de danger. On peut très bien vivre avec un rein et donner un terrain à quelqu'un qui est près de nous ou même à d'autres personnes.
Est-ce que c'est, à votre avis, quelque chose que les gens connaissent bien comme option ou on est encore dans les balbutiements de ce type de don-là?
D'ailleurs, le programme gouvernemental qui a été annoncé vendredi dernier, cet aspect-là est très important de sensibilisation, d'information, et ça, on y souscrit totalement. C'est pas très connu, comme vous dites. Le don d'organes de personnes décédées, ça, il y a des campagnes, tout ça. Mais le fait de pouvoir donner un rein, c'est en général lorsqu'on est impliqué auprès de la famille, des gens qu'on connaît, où on apprend un peu l'existence de cette possibilité. Alors, oui, le but du programme, en premier lieu, c'est de faire de l'information puis de la sensibilisation.
Est-ce que vous voyez souvent des gens qui n'ont pas de lien avec, par exemple, la personne qui doit recevoir un rein en donner, parce que je pense que je fais partie de la moyenne des ours, là, mais moi, comme ça, oups, j'ai besoin de me le faire démystifier parce que j'aurais l'impression de mettre ma santé en péril. Puis le côté émotif prendrait probablement le dessus si c'était quelqu'un autour de moi que ouais. J'apprécie qui est malade. Mais de là à le faire, j'aurais aussi beaucoup d'inquiétudes.
C'est tout à fait normal et légitime. Hein? C'est effectivement, c'est plus qu'un don de sang. Hein? C'est plus qu'aller à Emma Québec donner de son sang. C'est de donner un rein. Donc, ça implique beaucoup de choses. Et la première inquiétude, c'est ça. Ben, se faire opérer, les conséquences à moyen ou à long terme de ça. C'est toutes des choses qui sont importantes. D'où l'importance d'avoir des équipes qui sont dédiées à ce programme pour pouvoir identifier les candidats, mais ensuite les informer puis prendre le temps avec eux de discuter de tous les aspects pour que tout le monde soit à l'aise avec ça, c'est d'une importance primordiale. Il faut que le donneur soit tout à fait à l'aise. Oui, on voit des gens, parfois, pas si souvent que ça, mais des gens pour un collègue de travail. C'est sûr que le plus souvent, ce qu'on voit, c'est des membres de la famille, les gens sont impliqués émotivement, comme vous disiez, mais on voit aussi des collègues de travail, parfois, qui vont offrir un rein, ou même, parfois, c'est plus rare, mais des gens qui nous appellent et qui disent, moi, je serais prêt à donner un rein à quelqu'un.
Wow. Là, on est rendu à un niveau d'abnégation.
L'altruisme est incroyable. Oh, oui.
C'est pas fréquent, mais ça arrive, ça arrive.
Le programme, c'est ce qui va permettre, finalement, de mettre en place des équipes, puis d'assurer que ce soit aussi accessible. Est-ce que ça va être accessible? Est-ce que ça va être couvert par la RAMQ, ce type de don-là?
Oui, ou... ouais. Là, il y a deux aspects importants, effectivement, que vous soulevez. Tout d'abord, la campagne de sensibilisation va faire que les gens vont se présenter. D'ailleurs, depuis vendredi, à notre équipe de transplantation, le téléphone sonne plus. Et après votre émission, ça va être encore le cas aussi aujourd'hui,
tant mieux.
Je suis sûr. Alors, ça nous prend les ressources. Les équipes sont déjà en place. On fait déjà du don vivant. À Québec, au cours des dernières années, une quinzaine par année. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et les ressources, les gens qui travaillent là-dedans sont déjà très occupés à d'autres aspects de la transplantation. Alors, on va avoir besoin de ressources pour accueillir les candidats potentiels, les évaluer. Il faut évaluer presque 4 candidats pour avoir un donneur. Alors ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, ben, l'aspect financier, il faut falloir aussi, le donneur doit... doit assumer certaines pertes de revenus, certaines dépenses. Il faut les aider à compenser si on veut que le programme soit un succès.
Certainement. Je vais me tourner vers notre couple de donneurs et receveurs, Louise Rochette et Louis Trudel. Vous êtes un couple ensemble depuis 40 ans, en passant. Mm-hmm. Je vais commencer par Monsieur Trudel, parce que c'est vous qui avez appris, à un certain moment donné, que vous souffriez d'insuffisance rénale. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en termes de santé puis de ce que vous avez dû apprendre en lien avec la greffe éventuelle que vous avez reçue?
OK. Moi, d'abord, je suis porteur d'une maladie qui s'appelle les reins polykystiques. C'est une maladie génétique. Donc, ça arrive à la naissance parce que un des parents a ce problème-là. Ma mère avait ce problème-là. Elle en est décédée en 71, bien avant là, qu'il y ait des ressources. Alors, moi, j'ai appris que j'avais cette maladie-là. J'avais à peu près 37 ans. Je commençais à avoir de l'hypertension, puis tout ça. Puis, en ayant le diagnostic, on a à peu près automatiquement le pronostic d'arriver à l'insuffisance rénale terminale. Donc, je suis arrivé à la dialyse, j'avais 60 ans, puis j'ai été greffé à 63 ans. Puis, j'ai d'abord bien réagi à la dialyse péritonéale pendant à peu près un an et demi. Par contre, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Il était question de me transférer à l'hémodialyse. Il y a eu deux chirurgies pour que je puisse arriver là. Ça n'a pas fonctionné pour créer l'entrée là, pour faire l'hémodialyse. Puis, ma femme m'avait offert, avant que je sois en dialyse, de donner un rein. Mais comme tout le monde, je craignais que sa santé puisse être altérée, même si j'étais informé du contraire. Il y avait comme une résistance là à dire oui à ça. Mais mon état de santé s'est finalement tellement détérioré que c'était une question peut-être même de vie ou de mort. Là. Et ma femme m'a dit à un moment donné, écoute, c'est maintenant ou jamais. Puis j'ai dit oui, parce que c'était vraiment
une possible, question de vie ou de mort.
Oui.
Madame Rochette, c'est toute une décision d'accepter de perdre une partie de soi, de donner une partie de soi pour sauver votre mari. Qu'est-ce qui a motivé ça? Comment vous avez réussi à l'accepter, de faire quelque chose d'aussi important comme don?
C'est venu de façon naturelle parce que je savais que je voyais Louis qui se détériorait. Et avant même qu'il rentre en dialyse, pour moi, ça faisait partie de ma vie de pouvoir aider puis nous assurer aussi une meilleure qualité de vie. Puis, c'est ça, de façon spontanée. Finalement, moi, je me trouvais à attendre que Louis me donne le OK pour entreprendre la démarche. Parce que ce qu'il faut réaliser, ça paraît extraordinaire comme ça, mais quand on accompagne quelqu'un, par exemple un proche qui a le cancer, on se trouve en situation d'impuissance et on le regarde mourir. Puis j'avais vécu cette situation-là plusieurs reprises. C'est quand, pour moi, c'était évident que là, j'avais une possibilité de faire quelque chose, de sortir de l'impuissance, et je savais que ça, j'avais une bonne chance, une bonne qualité de vie après ça. Puis ça aussi, c'est tout un processus pour arriver à donner le rein. Je sais pas si j'embarque tout de suite là-dessus.
Vous pouvez y aller, oui. Ça a pris quoi comme okay. étape, justement? Il faut faire des examens, il faut s'assurer que vous soyez en santé suffisante.
Oui, l'étape, le processus, c'est très, très, très important. Justement, il y a un désir. Louis aussi devait être respecté dans sa crainte. C'est qu'on a du temps au cours du processus pour s'acheminer vers le don. Et ce processus-là est vraiment très, très, très sérieux. Entre autres, c'est le donneur qui doit faire la première démarche pour dire « je suis intéressé ».
OK.
Pour qu'on ne sente pas de pression. Ensuite, le suivi, ça a duré dans mon cas 5 mois parce que c'est allé très bien, un peu exceptionnellement, jusqu'à savoir que je pouvais donner un rein. C'est que pendant tout ce temps-là, j'étais accompagnée par une infirmière précisément qui me dirigeait vers les services, vers les différents examens. J'ai subi vraiment beaucoup, beaucoup d'examens pour arriver à dire « c'est correct, vous pouvez, votre rein peut être enlevé, vous allez être en bonne qualité de vie après ça ». Et il y a aussi tout un suivi, je dirais, psychologique ou de cheminement qui, dans ce cas-là, c'est important qu'on soit en lien avec une infirmière régulière qui nous accompagne. On est vu par un psychiatre, travailleur social, tous les examens physiques possibles et imaginables, pas juste au niveau du rein, mais au niveau du système pour être sûr que j'en souffrirai pas par après. Et tranquillement, c'est ça, on chemine. Puis tous les deux, on avait pris l'entente de si à un moment donné, moi, je sens que je veux plus. Je veux dire non. Et Louis avait le même contrat de dire non.
C'est ça, Mme Rochette. Peut-être une question un peu indiscrète, mais je sais que l'amour a probablement pris toute la place dans cette démarche-là. Mais à aucune étape, vous êtes dit, là, je suis pas certaine.
Dans mon cas, non. Parce que j'ai une formation médicale à la base. J'étais ergothérapeute. C'est que je pense qu'à chaque fois, je comprenais très bien ce qui se passait, puis même avant d'entreprendre la démarche. Et j'attendais, sérieusement, je me surveillais. Une des devoirs que je me donnais, moi, c'est d'être en contact avec ce qui allait monter. Et le non est jamais monté.
Jamais, jamais.
La peur.
Oui, OK.
Oui, des craintes. Quand vous parliez tantôt de la peur, j'avoue que c'est là. C'est pas si beau que ce que ça peut avoir l'air dans
non,
ce que je
ça.
Dis, là. Entre autres, je me souviens, une de mes nièces m'avait dit qu'elle avait regardé sur Internet comment la chirurgie se passait. Moi, je voulais pas voir ça.
Vous avez dû perdre connaissance avant. Juste en y pensant.
Je savais assez ce qui se passait. Je n'avais pas besoin. Je pense que c'est important de pas nourrir la peur. Mais c'est tellement plus grand tout ce qui se passe. Et encore une fois, on est tellement bien accompagnés. Les craintes, on n'a même pas le temps de les avoir que les choses sont expliquées. Fait que non, sérieusement, le nom est jamais monté et je vous dirais que je suis allée donner à Calgary. Juste avant l'intervention, il y a eu 3 médecins qui m'ont demandé « Voulez-vous vraiment donner? »
OK.
Avant 3 fois, puis l'anesthésiste finalement, « Est-ce que vous voulez vraiment donner? » Et je sentais que je pouvais dire non.
À toi,
même rendu à ce point-là, le respect était tel que je pouvais dire non.
Qu'est-ce qui a apaisé votre peur? Outre le fait d'aider votre mari?
Le cheminement. C'est quelque chose, la peur, c'est quelque chose qu'on apprivoise tranquillement, puis d'être en contact quand ça montait, puis ensuite d'aller voir. Puis un des barèmes que j'avais, c'est à chaque fois que je passais un examen, puisqu'il y en a eu plusieurs, ça c'était spécial, parce qu'après l'examen, tu peux soit apprendre que tu es malade, soit que tu peux continuer le processus. C'est qu'il y avait la joie de pouvoir continuer le processus. Mais à chaque fois, c'était une très grande joie qui montait de « Ah oui, on peut continuer », puis de pouvoir avoir une solution par rapport à la situation de Louis qui se détériorait. C'est pour moi, c'est un grand cadeau d'avoir pu faire ça. Il n'y a pas d'autre mot.
Et vous avez fait un don croisé, hein, si j'ai bien compris. Ça consiste en quoi exactement, le don croisé? Peut-être Dr Charbonneau, peut-être vous l'expliquer?
Ouais, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, même fascinant. Bien entendu, qu'un couple comme ça qui veut donner un rein, bien, il faut qu'il y ait une compatibilité essentiellement au niveau des groupes sanguins. Et c'était pas le cas de M. Trudel et Mme Rochette. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, il y a d'autres couples donneurs, receveurs, qui sont dans la même situation. Donc, on peut faire une sorte de contrat. Moi, je donne le rein à l'autre et on fait un croisé comme ça.
Un échange à 3 équipes, autrement dit.
Oui, oui. Et il y a un programme pan-canadien. Vous imaginez, je reviens encore sur l'importance d'avoir les ressources, vous imaginez la coordination que ça prend, le travail. Mais oui, ça se fait. On appelle ça des chaînes de donneurs. Ça peut aller à plusieurs donneurs. Je pense que chez nous, au CHU de Québec, on a fait 6 ou 8 chaînes de donneurs comme ça. Mais c'est pan-canadien. Madame Rochette a dû aller à Calgary pour le prélèvement.
Mais si quelqu'un décide à la toute fin de ne pas faire le processus, il arrive quoi?
C'est ça qui est le nœud de toute cette histoire-là. Il faut vraiment que ça soit attaché très, très solidement. Alors, oui, il y a un certain risque, mais en général, les gens, quand ils sont rendus à cette étape-là, c'est rare qu'ils reculent à la dernière minute.
Monsieur Trudel, depuis votre greffe, ça va bien?
Oui, absolument. Qualité de vie retrouvée, beaucoup de possibilités d'activité. Comme avant, en fait, voyager. Non, il y a des choses dont je m'ennuie pas du tout. La dialyse, les visites à l'hôpital, le manque d'énergie, etc. Alors, tout ça, c'est derrière.
C'est un second souffle.
Oui. On peut quand même pas dire que c'est un long fleuve tranquille, là, parce que ça demeure une maladie compensée par la greffe. Mais dans l'ensemble, les avantages l'ont toujours emporté sur les inconvénients.
Ça a tout changé. Puis, vu que vous avez fait un don croisé, est-ce que vous êtes en contact avec la personne, l'autre couple? Est-ce que vous êtes resté en contact ou vous n'avez aucune idée c'est qui?
Moi, je sais que c'est un homme qui est venu d'Edmonton. Et j'ai envoyé une carte de remerciement à cette personne-là par l'entremise des infirmières qui s'occupent de Transplant Québec. Et j'ai reçu une carte de cette personne-là qui disait à peu près comment elle était heureuse d'avoir pu contribuer à la remise en vie de plusieurs personnes, finalement. Parce que dans la chaîne, c'est beaucoup de personnes qui reçoivent, beaucoup de personnes qui donnent, beaucoup de familles qui retrouvent plus de liberté, plus de possibilités de choix. Ça fait que c'est grand, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Quelque chose qui dépasse un peu,
effectivement. C'est plus grand que nous autres, ce qui se passe là.
Madame Rochette, vous, le rétablissement après l'opération, malgré toutes les appréhensions, le cheminement, la peur, vous avez retrouvé une qualité de vie similaire avant l'opération?
Oui. Ah oui, ah oui. C'est un processus aussi. Mais oui, tu vois, dernièrement, à cet hiver, j'ai fait un projet humanitaire en Asie. Fait que ça, c'était le signe que vraiment, j'avais retrouvé mon énergie d'avant, puis là, comme avant.
C'est une très bonne nouvelle, puis c'est rassurant pour les gens qui éventuellement voudraient se lancer dans cette grande aventure-là.
Oui.
Exactement. C'est le souhait, en fait, c'est que les gens mettent le pied dans l'aventure, puis soient accompagnés pour arriver à vivre quelque chose de très beau, qui est notre expérience, en fait.
En terminant, Dr Charbonneau, juste peut-être nous donner les informations. S'il y a des gens qui veulent plus de renseignements concernant cette pratique-là, sur le programme, sur la possibilité de devenir donneur éventuel, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, bien entendu, il y a l'organisme Québec Transplant, il y a un site web, il y a pas mal d'informations sur ce site. Vous pouvez téléphoner, les gens vont vous renseigner. Alors ça, je pense que c'est une bonne source d'informations. Chaque unité de transplantation au Québec fait du don vivant déjà. On espère l'augmenter, mais on s'en fait déjà. Alors, il y en a au CHUM, bien entendu, Maisonneuve-Rosemont, Sherbrooke, mais chez nous aussi, au CHU de Québec, au pavillon de l'Hôtel-Dieu, les gens sont là pour informer. Si on nous téléphone, on donne toutes les informations qui requises.
Docteur Charbonneau, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Louis Trudel et Louise Rochette pour leur beau témoignage. Donc, c'était sur le don vivant de rein. Je pense que c'est un témoignage qui est inspirant. Puis, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin en studio.
Merci.
Merci à vous.
7h34.